Avec ce soir Jérôme Sainte-Marie, le sondeur responsable de l'école de formation du Rassemblement National Campus Emera. Bonsoir, bonsoir Jérôme.
Bonsoir.
Bonsoir Alain Duhamel.
Bonsoir.
Emmanuel Macron, le chef de l'État, on le voit bien, replace depuis quelques jours l'Ukraine au sein de l'agenda politique français, avec ses rencontres européennes, sa sortie sur l'envoi des troupes au sol. Il doit d'ici quelques minutes recevoir deux anciens présidents de la République, ses deux prédécesseurs, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Demain, ce seront les chefs des partis d'opposition. On verra donc Jordan Bardella monter les marches de l'Élysée en tant que président du Rassemblement National pour s'entretenir avec Emmanuel Macron de la situation en Ukraine. Mais la question, elle est simple. Est-ce que le Rassemblement National peut dire « nous sommes un soutien de l'Ukraine » sans faille?
Bon, je dirais qu'ils le disent le moins possible. Bon, il faut essayer d'être de bonne foi, en tout cas j'essaie. Il faut reconnaître que Marine Le Pen, par exemple, ne parle plus de Poutine et a oublié ce qu'elle pouvait dire auparavant. Son tropisme pro-russe, il a été escamoté. Et elle reconnaît que l'agresseur, c'est la Russie et que la victime, c'est l'Ukraine. Bon. Cela étant, on voit bien depuis le début, quand on suit l'évolution au jour le jour, que en ce qui concerne l'aide, l'assistance à l'Ukraine, ça a été d'abord plutôt civil que militaire, ensuite plutôt défensif qu'offensif, et puis maintenant plutôt modeste qu'important. Et en réalité, moi je ne suis pas du tout étonné, parce que le Rassemblement National, comme son nom l'indique, c'est d'abord un parti nationaliste, que la tradition des partis nationalistes, c'est l'égoïsme sacré, donc le plus possible pour soi et le moins possible pour les autres. Bon, et que, bah, au fond, le Rassemblement National, il n'est pas du tout pour l'OTAN parce que son anti-américanisme reste entier, il n'est pas du tout pour l'Europe de la défense d'Emmanuel Macron, il n'est d'ailleurs pas du tout pour la politique d'Emmanuel Macron et en particulier pour ses dernières déclarations. Donc, je répète, oui, mais le moins possible.
Je suis pas totalement en désaccord avec vous, Alain Duhamel, et dans la mesure où, effectivement, c'est ce qui compte pour... ce qui a compté généralement, d'ailleurs, pour la plupart des dirigeants de ce pays, on peut même parler du général de Gaulle, c'est d'abord l'intérêt national. L'intérêt national et le respect des règles du droit international. C'est pour ça qu'il y a effectivement, vous l'avez souligné d'une certaine manière, il y a eu une rupture dans l'attitude de tout un courant de pensée par rapport à la Russie et par rapport à Poutine, à partir du moment où il y a eu une rupture franche du droit international. C'est-à-dire qu'il y a eu l'invasion de l'Ukraine.
De la part de Poutine.
Là, si vous voulez, il y a un passage à l'acte qui fait que ça change tout. Et d'ailleurs...
Alors que les mêmes disaient avant ne pas croire à une agression de Poutine.
Après, il y a des analyses...
Emmanuel Macron non plus n'y croyait pas.
Il y a des analyses qui sont faites, qui se révèlent justes ou erronées, etc. On ne peut avoir des sympathies pour telle ou telle forme de politique, tel ou tel discours. Mais quand il y a un passage à l'acte qui est l'invasion d'un pays par un autre, eh bien, là, à ce moment-là, ça change tout. Ça a été traduit immédiatement, vous le noterez avec honnêteté, lors de la campagne présidentielle. Aussitôt, si vous voulez, il y a un basculement et il n'y a aucune ambiguïté. Après, il y a un débat qu'on va peut-être avoir sur, effectivement, les modalités de l'aide à l'Ukraine et le risque d'engrenage.
Alors, est-ce qu'il faut soutenir l'Ukraine ou soutenir la stratégie d'Emmanuel Macron, du président de la République? C'est là qu'est le débat et la différence.
Enfin, est-ce qu'il faut soutenir l'Ukraine?
Oui.
En ce qui me concerne, la réponse est oui. À la fois pour l'Ukraine, pour le droit international et aussi pour notre intérêt. Parce que ce qui se passe en Ukraine et le comportement de la Russie, d'abord ça signifie que rien n'est impossible avec Poutine, qui dispose de moyens militaires considérables. Et en réalité, ce qui se passe en Ukraine, ça concerne l'ensemble de l'Europe. Alors évidemment, les pays limitrophes se sentent plus concernés que les pays latins ou que les Grecs, évidemment. Mais il n'empêche, en réalité, on est concernés. D'ailleurs, les Français l'ont bien compris et ont soutenu l'aide à l'Ukraine, même si aujourd'hui ça se refroidit un peu. Mais comme
pas
c'est
seulement en France, en Allemagne aussi.
Non, mais bien sûr, mais comme c'est normal. Vous savez, quand vous demandez à des peuples, alors on donne combien de milliards aux Ukrainiens, etc. Quand au même moment il y a de l'inflation et des difficultés économiques, mais évidemment il y a un réflexe qui est de dire et nous. Ça, évidemment.
Alors, est-ce que le soutien des Français est aussi important qu'il y a deux ans, ou est-ce qu'il est en train de baisser, comme on constate ailleurs, d'ailleurs en Europe?
Alors, c'est une question, en termes d'opinion, que j'ai bien travaillé ces derniers temps, et qui n'est pas simple. Alors, tout d'abord, il faut quand même mettre le cadre général. La relation affective des Français, en général, avec l'Ukraine, au départ, est assez faible. C'est pas un pays sur lequel on a vraiment de relations, sur lequel on a une histoire commune, etc. C'est quand même, tout ça est quand même très distant. Beaucoup de gens ont découvert la géographie de l'Ukraine quand elle est rentrée en l'histoire, si j'ose dire. Et donc, vous avez effectivement, donc ça, c'est le premier point. Vous avez eu au départ, quand on prend les chiffres de mars 2022, les premières mesures, est-ce que vous avez une bonne opinion de la Russie? C'est très faible, de l'ordre de 20%. Ça s'est plutôt dégradé. Aujourd'hui, je crois que c'est 18% d'après l'IFOP de Français qui ont une bonne opinion de la Russie. Pour l'Ukraine...
Il faut se rappeler historiquement qu'il y a eu un moment où il y avait en revanche, en France, une russophilie. Pas seulement chez les communistes. Alors, vous allez me dire ça il y a longtemps, mais ça a existé. Et le tropisme russe et l'idée de l'alliance entre la France et la Russie, ça a longtemps été un des objectifs. Et même le général de Gaulle laissait toujours ouvert, non pas l'hypothèse d'une alliance, mais d'un lien privilégié ou d'une alliance de revers.
Notre relation à la Russie a toujours été forte. Je crois que c'est le baron de Poutine qui a écrit le premier livre sur, au milieu du 19e, Marquis, excusez-moi.
Et le soutien à l'Ukraine.
Qui était très hostile à la Russie, qui a été un peu la base de la russophobie. Jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est une vieille histoire. Pour l'Ukraine, c'est radicalement différent. Pour la Russie, l'image est exécrable et elle est stable. Pour l'Ukraine, l'image est bonne, mais elle se dégrade assez rapidement. Et ce qui se dégrade encore plus de la majorité des Français ont une bonne image de l'Ukraine, mais je crois que c'est 12 points de moins par rapport à mars 2022.
Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question.
Ce qui est beaucoup plus en recul, c'est d'une part... le soutien à une candidature de l'Ukraine dans l'Union européenne. Oui. Pour la première fois, selon l'IFOP, il y a quelques semaines, pour la première fois depuis 2 ans, une majorité de Français, 51%, une majorité courte de Français sont hostiles désormais à une candidature.
C'est lié d'ailleurs au problème agricole.
Ce qui est très lié à l'histoire du poulet ukrainien.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Et sur la question, et au fur et à mesure qu'il y a un discours belliqueux qui apparaît dans la bouche du président de la République, au fur et à mesure où ça devient concret, en fait, eh bien, là, le soutien militaire à l'Ukraine est de moins en moins populaire parce que les gens veulent aider les Ukrainiens de différentes manières. Ils ne veulent pas forcément pour cela sacrifier des pans entiers de l'économie française et ils ne veulent pas non plus être engagés.
En recevant les deux présidents de la République, en recevant les partis d'opposition, en organisant le débat à l'Assemblée nationale.
Oui, pas pour l'envoi des troupes, rappelons-le.
Que cherche le chef de l'État? Quel soutien cherche-t-il? Qu'est-ce qu'il attend, le président Macron?
D'abord, en l'occurrence, le débat, il va avoir lieu à propos d'un accord direct entre la France et l'Ukraine.
Est-ce qu'il y aura unanimité? Tout le monde va dire oui.
Il n'y aura pas d'unanimité.
Mais c'est pas l'envoi des troupes, faut bien préciser.
Mais d'ailleurs, il n'a jamais dit il faut envoyer des troupes. Il a dit en gros.
Si ça dégénère,
tout est possible.
Oui.
L'idée, c'est non, mais ça, c'est. Je sais que vous connaissez un peu les questions militaires, donc l'ambiguïté stratégique, franchement, c'est un principe de la dissuasion depuis toujours. Alors ensuite, on peut discuter les mots qui ont été utilisés, le vocabulaire, le moment.
Mais Macron a dit que vous avez pesé les mots. Il a dit, j'ai pesé les mots. Oui, mais rien n'est laissé au hasard. C'est ce qu'il dit.
Il dit tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'il le fait tout le temps. Et surtout qu'il dit ça après coup. Son idée sur l'ambiguïté stratégique et sur a priori on ne doit pas dire à quelqu'un qui est dangereux je ne recourrai pas aux moyens dont je dispose, il ne faut pas le dire, mais en même temps il faut être prudent dans la façon de s'exprimer.
Ce qui n'est pas en décalage. Si on revient à nos débats, puisque le débat c'était Marine Le Pen, le RN, est-ce qu'il y a une sincérité dans le soutien à l'Ukraine? Visiblement, quand même, le RN est plus en phase avec l'opinion publique française que Emmanuel Macron sur l'idée peut-être d'aller plus loin et d'envoyer des troupes.
Oui, certainement, parce que vous voyez, encore une fois, la position française des Français en général est assez, sauf des minorités de part et d'autre, mais pour la plupart d'entre eux, encore une fois, il y a des braves gens qui se font envahir, en quelque sorte, il faut les soutenir. Mais de là à rentrer dans une logique campiste, une logique où, en quelque sorte, l'humanité se diviserait en deux camps, le camp du mal, etc., et le camp du bien, et on aurait, en dehors de tout accord militaire préexistant, aurait une obligation absolue d'aller envoyer des armements et les troupes qui vont avec, si c'était des armements qu'il nécessite, et rentrer dans une logique d'entraînement. Vous savez, c'est l'histoire, l'histoire fourmi de ces histoires-là, c'est l'histoire de la guerre du Vietnam, ça commence par des armements, puis des conseillers, et à la fin, il y a 500 000 soldats qui sont là-bas. Donc, là, les Français ne veulent pas de
cela. Je pense que c'est une hypothèse qu'on peut écarter résolument en ce qui concerne la France et à propos de l'Ukraine, les 500 000 envois.
Bah, on a les moyens d'envoyer 500 000 hommes, ça c'est sûr.
Bah, oui, c'est même totalement aberrant.
Envoyer des hommes au sol.
Non, alors, de toute façon, mais je voudrais répondre sur le fond quand même, parce que c'est important. Mais de toute façon, quand on parlait de, pour l'instant, de soldats professionnels par principe, ce qui est très différent de auparavant la conscription.
Les appeler.
Quand on parlait d'eux, il s'agissait d'entraînement ou de formation à l'utilisation de matériel. Il s'agissait pas de troupes allant sur le terrain pour se battre. Alors, je sais bien que c'est un peu hypocrite de dire ça, que c'est vrai pour la France comme c'est vrai pour la Grande-Bretagne, par exemple. Mais il faut quand même faire la distinction. On n'a jamais envoyé des troupes en disant elles vont se battre.
Et le paradoxe, c'est qu'on arrive.
Et la probabilité que ça se passe est quand même assez faible, même si Emmanuel Macron a dit on ne doit jamais rien s'éteindre. Mais sur le fond, sur l'évolution des Français vis-à-vis de l'Ukraine, parce que c'est quand même ça l'essentiel. Je suis complètement d'accord sur le fait qu'il y a l'aspect matériel, prosaïque, réel. Quand on voit les paysans français furieux à cause des poulets ukrainiens, bah oui, tout le monde comprend très bien. Quand on demande de plus en plus d'argent pour les aider, dans les circonstances actuelles, ça ne plaît pas beaucoup, et que de ce point de vue, que l'Ukraine en plus ait des reproches à se faire en ce qui concerne la probité des dirigeants, etc. Tout ça explique pourquoi il y a, je dirais pas un désamour, mais enfin une sympathie qui tend effectivement...
Une lassitude aussi.
Oui, puis une sympathie qui tend à reculer. Maintenant, sur l'idée de l'escalade, militaire, Dieu merci, on n'en est pas là du tout. On n'est pas en période d'escalade militaire. On essaye de donner aux Ukrainiens les armes.
Et qu'on n'arrive pas à fournir.
Et les munitions dont on ne dispose pas.
Alors, c'est le paradoxe, c'est-à-dire qu'on veut les soutenir, mais on n'arrive pas à les soutenir.
Bien sûr. Et de ce point de vue, d'ailleurs, on ne l'a pas tellement relevé, mais Macron a marqué un point, en fait, depuis la semaine dernière. Il a engueulé ses partenaires de façon maladroite et délibérée. C'est pas la première fois qu'il le fait. Hein, il l'avait déjà fait à propos de l'OTAN, etc. Ça avait fait assez de bruit à l'époque. Bon, il a recommencé. Mais ce qui était recherché, c'est-à-dire arriver à mobiliser les Européens qui étaient divisés là-dessus, à commencer par l'Allemagne, sur est-ce qu'on va acheter des munitions et des armes hors d'Europe, puisqu'on n'en a pas assez en Europe. Eh ben, ça se fait, finalement. Au bout d'une semaine, ça se fait.
Alors on parle d'escalade militaire, mais puisqu'on est sur le débat français, il y a par contre une véritable escalade verbale dans le camp gouvernemental. Et ça, c'est pas de parti pris que de dire que quand, je crois, Gabriel Attal dit les troupes de Poutine sont déjà en France, ce sont les troupes du Rassemblement National. Ce sont des propos qui, dans le cadre d'un discours républicain, me paraissent raisonnablement très excessifs.
Et qui je ne vous dirai pas le contraire.
Là, on est dans la campagne, électorale.
C'est dangereux, maladroit.
Je ne vous dirai pas le contraire, mais j'ajouterai que de son côté, quand Marine Le Pen parle du gouvernement, les termes sont assez comparables, hein, en intensité
Vous savez, on a eu l'expérience l'un et l'autre de périodes où on parlait de guerre. Quand vous assimilez ceux qui disent attention, faut être prudent.
Alors regardez, l'ancien président Hollande est en train d'arriver à l'Élysée. Voilà, c'est le premier qui va s'entretenir avec Emmanuel Macron, qui ne vient pas l'accueillir sur le terrain, d'ailleurs.
Ah bah non, c'est pas le protocole.
C'est pas le protocole. Et ensuite, ce sera...
Le protocole, c'est important. Hein.
Oui, en France.
Oui, absolument.
Et alors pourquoi est-ce que ce n'est pas le chef de l'État qui vient l'accueillir sur le perron?
Parce que si c'était un chef de l'État qui venait, il serait sur le perron.
D'accord.
Si c'était un président raccompagnant un autre président au moment de la passation de pouvoir, bien entendu, il devrait le faire, même si tout le monde ne l'a pas fait, mais bien entendu, il devrait le faire. Quand c'est un ancien président qui vient, il l'accueille, mais il ne l'accueille pas sur le perron.
D'accord, et ce sera dans une heure de Nicolas Sarkozy.
Absolument.
Revenons sur ce qu'on disait, parce qu'on voit bien quand même que la campagne électorale des Européennes a commencé. Est-ce qu'il n'y a pas une tentation de la part d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal d'utiliser le dossier ukrainien pour pointer du doigt les ambiguïtés du Rassemblement national, accuser d'être pro-russe, d'avoir été financé par un prêt russe lors de la dernière présidentielle. C'est, on voit bien.
Ah oui, enfin, le problème, c'est que ça a été fait et refait et surfait.
Ça marche plus.
À un moment donné, ça ne marchera plus, d'autant plus que je pense que beaucoup de Français sont encore une fois pris entre des injonctions contradictoires. Soutenir un pays agressé et en même temps le faire de manière intelligente et sans menacer la sécurité française.
Et de manière contrôlée.
Voilà, absolument. On va se retrouver dans une situation assez étrange où peut-être que les oppositions, peut-être pas seulement d'ailleurs le Rassemblement National, apparaîtront comme plus responsables qu'un gouvernement qui est dans l'invective. Parce que assimiler encore une fois toute critique à la défense d'un intérêt étranger, et en plus l'intérêt d'une puissance qui vient d'agresser un autre pays, c'est quand même quelque chose qui, comme on dit, tout ce qui est excessif est insignifiant. Je pense que c'est, encore une fois, c'est pas très bien de le faire, pour la qualité du débat, et ça sera, en termes d'opinion, contre-productif.
Je suis d'accord que c'est à la fois excessif et probablement inefficace. Donc, je ne vous dis pas le contraire. En revanche, d'une part, on est dans une période électorale et la majorité est en mauvaise position. Dans ces cas-là, on a plutôt tendance à en rajouter dans l'invective qu'à se montrer modeste. Hein, vous le savez autant que moi. Donc, il y a cette dimension-là. Et puis, bon, il faut dire les choses des deux côtés. Le gouvernement, là, s'adresse au Rassemblement national de façon qui est excessive. Et en revanche, il est arrivé souvent à propos de ce sujet et dans cette période que les dirigeants du Rassemblement national, à commencer par Marine Le Pen, s'expriment de façon symétriquement tout aussi excessive. Ça s'appelle une campagne, et dans une campagne, il y a toujours une part d'exagération et de ridicule.